Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Alors les GG cette semaine, ce qui nous a marqué, c'est l'élimination complètement folle de la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en quart de finale de Roland-Garros. Je pense qu'on a tous suivi ce match, hein. On pensait que ça allait être l'autoroute pour elle, pour aller gagner son premier Roland. Elle menait son match 6-3-5-1 avant de prendre un cinglant 10-0. On parle de la numéro 1 mondiale, hein, et elle a perdu la rencontre contre la Russe Diana Schneider. Elle ne remporte toujours pas donc son premier Roland, alors qu'elle avait devant elle toutes les possibilités. Sabalenka tient en conférence de presse après la rencontre, on l'écoute.
Aucune pensée, aucune émotion. Je veux juste abandonner le tennis, pour tout vous dire aujourd'hui, mais on verra bien dans 2 ou 3 jours comment je me sens. J'espère pouvoir reprendre le bon chemin du point de vue de mon mental.
Bon, elle a l'air d'aller mieux. Elle a mis quelques stories sur Instagram où elle essaie de remonter la pente à Aryna Sabalenka. Mais bon, c'est quand même suffisamment sidérant pour qu'on en parle, les GG, à travers vos expériences. Comment est-ce qu'on gère quand tout déraille? Je pense que vous n'êtes pas des Superman ou des Superwoman, hein, les sportifs de haut niveau, on le dit suffisamment. Il y a toujours un moment où il y a un coup de fringale, où il y a un coup de moins bien, où on est moins inspiré, peut-être tactiquement aussi, que tout nous échappe. Fred, ça t'est déjà arrivé?
Oui, mais j'ai déjà la chance de faire un sport collectif. Donc ça, c'est vraiment une grande différence. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas bien, il y a tes coéquipiers qui sont là pour te rattraper. Mais ça dépend. La question, c'est quand tu dérailles sur un match ou sur une saison, parce que c'est deux choses complètement différentes. Si tu dérailles sur un match, c'est assez simple. Tu te reviens à tes basiques. Tu fais des choses qui te rassurent. Tu travailles sur des choses qui peuvent te permettre, sans te fatiguer trop, de revenir complètement dans le match. C'est-à-dire qu'en gros, si tu mets pas un panier, si tu rates tout ce que tu shootes, tu vas faire autre chose. Ou parce qu'on a la chance tu shootes moins, mais par contre, tu fais plus de passes, tu fais plus d'écrans pour libérer tes coéquipiers, tu fais plus de choses faciles à faire que tu maîtrises pour te relancer un petit peu dans le bas. Et sur une saison, c'est à peu près la même chose, mais c'est collectivement aussi. C'est-à-dire que il faut évidemment travailler sur tes basiques, travailler plus. Moi, je sais que quand j'avais des périodes très difficiles, je demandais au coach assistant de venir plus tôt le matin pour qu'on fasse des choses ensemble, pour répéter les gammes, pour se rassurer. Encore une fois,
tu fais de la répétition pour retrouver quelque chose,
parce que quand il se passe quelque chose comme ça de difficile, tu perds la confiance. Et c'est ce qui est le plus dur de récupérer.
Ça t'est arrivé d'avoir un match où tu passes complètement à côté face à un adversaire?
Évidemment, il y a des joueurs. Moi, je vais te raconter une anecdote. J'ai 19 ans. Je suis dans 5 majeurs de Limoges, donc j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de plaisir, c'est une joie immense.
Pour les plus jeunes, à Limoges à l'époque, c'était champion d'Europe en basket, c'était une institution.
Hein. Exactement.
Ça allait toujours,
mais un petit peu moins. On va pas mentir, c'est quand même redescendu de 2-3 catégories. Et donc à l'époque, on joue contre Cholet, et en face de moi, il y a un joueur qui s'appelle Paul Fortier. C'est un Américain, mais naturalisé français. Enfin, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit, il fait 2m5. Donc, encore une fois, il faut comparer. Moi,
Pascal Dubois,
il faut quand même recontextualiser. On joue le même poste de jeu. On a 12, 13 centimètres d'écart. Ce qui est quand même énorme. Donc, je le considère comme un petit. Il est vieux. Il bouge plus beaucoup. Il est un petit peu grassouillé pour l'époque. Et donc, je me dis, et le petit gros là, je vais le manger. Et donc, il m'en a mis 35. Il m'a mis 35 points. J'ai pas vu le jour. J'ai jamais réussi à trouver la solution. Et depuis ce jour-là, je n'ai jamais sous-estimé un adversaire. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait, cette défaite et le fait de perdre des pieds, parce que je me suis rendu compte que n'importe qui pouvait, à ce niveau-là, être performant et m'en mettre une sacrée. Et donc depuis, je m'en rappellerai toujours. Paul Fortier, si tu nous écoutes, merci, ça m'a permis de continuer à progresser. Ouais. Mais la doudoune que j'ai pris par mon coach dans la foulée, je raconte même pas.
comment gérer quand tout déraille? Fred vous a donné quelques indices. Et d'ailleurs, on fait souvent les vestiaires aussi pour vous inspirer. Alors vous, les jeunes sportifs ou les sportifs habituels ou même dans la vie de tous les jours, ça peut servir à savoir comment se recentrer. Marc, t'en as déjà eu dans le vélo des moments où tout déraille? C'est vrai qu'on pense à la fringale, évidemment.
Dans le vélo, tout déraille, c'est magnifique.
Ouais. Oui. Oui, forcément, mais après, en cyclisme, on est quand même habitué à plus souvent être battu que vainqueur. Parce qu'on court, 70-80 jours par an, et sur les 70-80, on en passe beaucoup à être battu. Donc, on est habitué à avoir des moments difficiles. Après, quand on subit un échec, ou qu'on est dans un moment de déficit physique et mental, moi, la recette, c'est se réfugier dans le travail. faire un reset, se dire voilà, il y a ça qui a pas marché, j'étais pas prêt, j'étais pas au niveau, je n'étais pas compétitif. À partir de ce moment-là, il faut se dire voilà, je reprends mes gammes, je refais
je vais courir 300 km pour m'entraîner.
Je vais m'entraîner, je vais faire le métier entre guillemets, je vais faire attention à ce que je mange, je vais dormir, je vais soigner ma condition physique et à travers le travail que je vais effectuer à l'entraînement, je vais forcément inéluctablement reconstruire mon mental.
Moi mais en fait c'est ça, c'est comme Fred, c'est en fait quand tu passes par des moments difficiles où ça déraille, justement, ça te sert à te rendre plus fort pour après, en fait.
Ouais, et puis tu t'en sers pour rebondir.
Non, mais par exemple, en course, t'as forcément eu une étape, course, je sais pas, où t'as eu des étoiles dans les, étoiles
qui arrivent. Si t'es en déficit physique sur une journée, dans la journée, tu restaures pas. Ou rarement.
Et tu fais quoi? Tu t'acceptes de lâcher?
Parce que t'as plus en fait, si.
Tu vas dans le groupe et
tu sauves les meubles. Tu essaies de sauver les meubles, j'imagine.
Tu survives, quoi. J'ai été dans une étape de montagne, t'arrives au pied d'un col. Tu te fais épailler dans le premier col. Épailler, ça veut dire larguer.
Oui.
Tu te fais larguer dans le premier col. Tu connais le métier. Tu t'es bon pour le groupe éto et tu rentres tant bien que mal au vestiaire à la fin de l'étape.
Ouais, mais quand voilà. Tu jouais quelque chose, tu te retrouves dans le groupe éto, c'est dur quand même. T'arrives encore à tenir? Parce que t'as humilié aussi.
Parce que t'as toujours l'instinct de survie. Quand t'es dans une course, il y a la survie quelque part qui est là. Et c'est comme quand tu chutes, tu vois les coureurs qui remontent très rapidement sur le vélo. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est l'instinct de survie. Si tu n'es plus dans le peloton, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort sportive. Parce que si tu n'es plus dans le délai imparti pour rentrer, à la ligne d'arrivée, tu n'existes plus, t'es condamné. Donc l'instinct de survie en vélo, le mec, il tombe, il se relève immédiatement. Après, s'il y a de la casse, tu constates la casse et là, ça t'arrête définitivement. Mais s'il y a pas de casse, tu rebondis tout de suite pour essayer de réintégrer le peloton qui est ta survie. Quand tu es dans le peloton, tu es en vie. Quand tu n'es plus dans le peloton, loin de l'arrivée et que t'es en situation d'être hors délai, t'es mort.
Et quand tu sens venir la fringale, Marc, quand tu sens que
tu trouves toujours une solution, l'instinct de survie également. Ah bah, tu vas toujours trouver
une patte de fruits,
quelque chose ou un copain ou le bord de la route.
Mais en fait,
il y a toujours quelqu'un qui va venir à ton secours.
Comment gérer quand tout déraille, Pascal?
La différence en fait entre le sport individuel et collectif, elle est là dans ce que dit Marc. Quand t'es seul, ben forcément ça se voit. Or que quand tu es dans un collectif, tu peux peut-être un peu te planquer, même si tes coéquipiers ont besoin de toi. Mais moi, ça m'est arrivé des matchs où vraiment j'ai alors que je me sens bien, alors que techniquement je suis à l'aise à l'échauffement, et puis le match démarre, j'ai plus de jambes, j'ai le souffle court, j'ai le pouls qui tape dans la tête.
Ça va être un calvaire.
Ouais. Ça va être un calvaire. Donc là, faut avoir un mental à toute épreuve.
Bah, comment
parce
tu
les passes. Eh ben, faut pas que tu te planques parce que tes coéquipiers, si tu te planques, tu sais, se planquer, c'est-à-dire pas vouloir du ballon, se mettre dans les mauvaises zones pour pas qu'on te trouve, ok.
Parce que ça peut se voir rapidement et même l'adversaire peut le voir.
Oui.
Et tu sens pas bien.
Et puis surtout la personne qu'il faut pas qu'elle le voit, c'est ton coach. Hein. Quand tu es sur le terrain et puis que t'es pas bon, faut surtout pas que ton coach te voit. Donc faut quand même que tu aies une force de caractère. C'est un calvaire. Et c'est pour ça que je voulais revenir à ensuite quand t'es coach, quand tu vois ça, le fait d'avoir été joueur, ça permet de mieux appréhender les choses. Moi, je me souviens un match, j'ai débuté, j'avais 17 ans chez les pros à Sochaux. Le premier match que je joue, c'est contre Nantes à domicile. À la mi-temps, je rentre dans les vestiaires, je suis super content. Je me dis, tiens, j'ai bien appréhendé le truc. L'entraîneur me félicite, me tape sur l'épaule et il descend le directeur sportif. Il s'appelait René Hauss, il m'a insulté. Il m'a dit, tu joues comme un vieux. Mais après, à 17 balais, faut retourner sur le terrain pour faire la deuxième mi-temps. Je te promets, eh ben, chaque fois que j'avais le ballon dans les pieds, j'avais une putain de pression. Mais une putain de pression. Mais impressionnant. J'avais les pieds qui brûlaient. J'étais en larmes. Je suis rentré en seconde mi-temps à 17 ans. Alors que c'était le plus beau jour de ma vie. C'était mon premier match professionnel. J'étais en larmes. Deux, trois matchs plus tard, on va jouer à Lens. Et une passe en retrait d'un de mes coéquipiers. Je frappe du plat du pied. Barre. Mais le but était tout fait. Barre, je me suis fait insulter par mes coéquipiers. Vous m'entendez? Eh ben, ça vous apprend à vivre. Et ensuite, quand t'es coach, eh ben, ça t'apprend à relativiser quand ça arrive à certains de tes joueurs et que tu le vois.
Pascal, tu as dit un truc, auquel j'avais même pas pensé en préparant ce vestiaire. C'est parfois la capacité à cacher peut-être la douleur. Quand tu te sens pas bien, alors sur un terrain, tu peux le montrer. Mais Marc, il y a souvent des coureurs cyclistes où on se dit, mais il montre rien. Il montre rien. On sait pas s'il est fatigué ou pas. On pense à la même chose de Sinner. Par exemple, Sinner en tennis, une espèce de Iceman, là, un monstre de glace. On ne sait pas s'il va bien ou pas. Non, mais toi, quand tu es sur le vélo, tu y penses, ça, il ne faut pas que je montre à mon adversaire que je ne suis pas bien. Ça fait partie. Il y a un jeu mental. Est-ce qu'on arrive à le tenir ou pas?
Personnalité.
Et à un moment donné, les masques tombent.
De toute façon, attends, quand ça monte d'un cran, tu peux plus cacher grand-chose.
Il y en a certains qui font semblant aussi de pas être bien.
Ouais, Thomas Vauclair. Souvenez-vous de Thomas Vauclair.
Oui, il y a beaucoup de mimiques. Vauclair, il mettait beaucoup la grimace.
Toute langue dehors.
Tout le monde le savait. Il y avait le commentateur qui s'en servait dans la retransmission. Mais sur le vélo, tu fais pas forcément attention à ça. Tu sais que le tel coureur va faire la grimace ou que tel autre coureur ne va pas montrer d'émotion. Donc, au fil du temps, tu connais, tu sais avec qui tu es. Et il y a quand même ce truc particulier quand t'es en course, quand t'es dans une échappée ou quand t'es dans une ascension et que t'arrives dans le final de l'étape, tu ressens ton adversaire. Tu sens quelque chose chez lui, à des petits signes, à des petits mouvements qui vont faire que tu sens s'il est au rupteur ou pas au rupteur.
T'es lié émotionnellement à ton partenaire de galère.
Bien sûr, tu ressens. Tu sens si tu vas aller le chercher, tu sens s'il va t'en mettre une et que tu vas pas pouvoir y aller. Tu captes une énergie que tu ne vois pas à travers l'écran, mais que toi tu perçois sur le terrain. Et je pense qu'en foot, Pascal ne va pas contredire. Tu ressens le truc. Nous, quand on regarde le match à la télé,
Fred,
on dit
pourquoi
il fait pas si. Mais t'as pas le même ressenti que le joueur en face à face sur le stade et sur la pelouse. Lui, il sait.
Fred, dans les duels, tu sens.
Évidemment, tu sais. En fait, c'est assez simple. En fait, dans le basket, quand tu contres un ou deux premiers ballons, le mec, tu sais qu'il est mort. Tu sais qu'il ne se remettra jamais, qu'il ne shootera jamais plus de la même manière. Il faut être extrêmement fort mentalement pour le faire. Mais moi, juste,
c'est un sport d'adresse.
Mais je voulais revenir sur ce que disait Marc. En fait, j'ai cru toute ma vie que j'étais un très bon comédien, que je masquais mes émotions, etc. Et en fait, j'ai vu dernièrement des matchs que je jouais. Et j'avais tout le temps les mains sur les genoux. En fait, tout le temps le mec à tout le temps en train de respirer comme un bœuf. Donc, j'étais pas si bon comédien.
C'est pour ça que tu t'es lancé dans une carrière d'acteur d'arranger
en fait ça. J'ai pratiqué pendant toute ma vie, ça n'a pas marché, mais maintenant je progresse.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Comment est-ce qu'on gère quand tout déraille? Tiens, Fred, justement, on va aller un peu sur le côté manager, coach et aussi coéquipier. Quand tu vois un collègue à toi, par exemple ton ailier, qui est le shooter, il n'en rentre pas une. Tu lui redonnes la balle?
Oui, au contraire, il n'y a pas un moment où collectivement vous dites on lui passe plus la balle.
Comme ça nous arrive à tous quand on est gamin, on dit c'est bon, lui là, mais Thomas il est sympa, ça fait 5 fois que je fais une passe en profondeur, il est toujours en jeu.
Sauf que là on est pro, on a envie de gagner, on sait qui est notre joueur, et en fait il faut pas changer d'attitude sous prétexte qu'il est moins bien sur ce jour-là. Et au contraire, notre objectif nous en tant que coéquipier, c'est de le mettre dans les conditions les plus faciles pour eux. Ce qu'on appelle percer le filet chez nous. C'est-à-dire que pour qu'ils remettent un panier, pour qu'ils se remettent en confiance, mettre tout en œuvre, mettre des écrans, bien taper les gens qui défendent sur lui pour empêcher qu'ils puissent défendre très bien sur lui.
Tu fais comme si de rien n'était.
Mais au contraire, on le met peut-être plus en confiance et plus en avant quand il est moins bien que quand il est bien. Parce que quand il est bien, il n'a pas besoin de nous, réellement.
Pascal, t'es d'accord avec ça?
Ouais, moi je vais aller sur le rôle de coach. Il faut bien connaître ses joueurs, parce que quand vous voyez un joueur en difficulté, eh bien en fonction de sa personnalité, quand c'est la mi-temps, eh bien il faut soit lui rentrer dedans. C'est le cas des joueurs à fort caractère. Le fait de les blesser, ça les rebooste. Et puis au contraire, des joueurs qui sont un peu plus faibles mentalement, qu'il faut plutôt choyer. Il faut aller les voir, c'est rien, ça va venir, leur taper dans le dos, leur donner quelques conseils pour qu'ils se remettent dans la partie. C'est important de bien connaître ces joueurs et d'avoir un bon feeling avec eux. Très important. Un entraîneur peut te remettre en selle, hein, ou alors peut t'enfoncer en fonction des quelques mots ou de son langage corporel sur le banc de touche dans la zone technique. Si t'es toujours en train d'hurler après tes joueurs, leur rentrer dedans et dire putain t'es nul, tu nous fais chier. Tu peux forcément le perdre.
J'ai une question par rapport à ça. Toi qui étais coach, justement, est-ce que tu as fait un relais sur
les coachs de ta vie?
Oui, non, mais bien sûr, mec. Qui a été souvent longtemps coach et justement, est-ce que tu cherchais un relais sur le terrain pour faire ce rôle sur le terrain? Parce que la kinothérapie au foot, c'est pas toujours très simple.
Non,
tu peux créer de loin, mais si t'as un relais sur le terrain, une sorte de capitaine, mais qui va voir les mecs quand ils vont pas bien, tu as toujours cherché ça ou pas?
Plusieurs joueurs, en fait. C'est souvent, il y a le capitaine, bien entendu, mais plusieurs joueurs sont les leaders de l'équipe. Il y a celui qui va aboyer, celui qui va plutôt tempérer, il y a celui qui va montrer l'exemple par son attitude sur le terrain. Mais oui, il faut avoir plusieurs relais. Oui, il faut. De toute façon, c'est la multiplicité des connexions entre le banc et les joueurs et entre les joueurs à l'intérieur de l'équipe qui vont faire qu'on reprend la main quand ça flanche, parce que bien souvent au foot ça flanche parce que ça flanche collectivement, parce que l'équipe adverse est supérieure à la vôtre.
Marc,
un des plus beaux moments quand t'es coach ou que t'es directeur sportif, c'est quand tu accompagnes un coureur dans la détresse, qui a chuté, qui est blessé, qui est malade et qui est devant le camion balai. Et le but du jeu, c'est de le sauver, de franchir la ligne d'arrivée et de rentrer dans les délais. Et quand tu es dans la voiture, souvent tu es seul, tu es dans ta voiture avec ton mécano, parfois un invité, et tu as ton coureur qui est juste devant toi, tu as la voiture balai,
c'est
juste derrière toi.
C'est la faucheuse qui est derrière.
Ouais. Et tu sais que tu es en combat avec le temps pour rentrer dans les délais. Alors tu vois, quand on est dans les situations d'euphorie, de victoire, c'est grisant, c'est excitant. Quand tu te retrouves dans ce genre de situation avec un coureur, tu crées un lien indestructible avec ton coureur. Parce que si tu lui permets, si tu l'accompagnes pour le sauver, tu crées quelque chose qui va rester ad vitam aeternam avec lui.
Tu l'as pas abandonné.
Parce que là, t'es presque un peu ému, même en parlant, Marc. Tu penses à quoi? T'as des situations.
J'ai eu plein de situations comme ça, et ça crée un lien avec ton coureur.
Tu m'as sauvé. À l'arrivée, c'est Marc.
Quelque part, tu m'as sauvé, et tu vas pas lui dire je t'ai sauvé, mais lui le sait que tu l'as sauvé.
Christophe.
Mais même les jours où t'as pas pu les sauver, tout le monde a encore en mémoire.
Il reste quelque chose.
Tout le monde a encore en mémoire ce dialogue que tu as eu avec Thibaut Pinot. Au soir de son abandon, où il est en pleurs, il pense qu'il est passé tout près de remporter le tour, il est obligé d'abandonner dans cette étape en direction de Tignes. Et le soir, tu es dans sa chambre et tu essayes de lui parler, et lui remonter le moral.
Comment
on trouve les mots dans la détresse?
L'instinct.
Ouais.
Le moment présent. On cherche pas les mots, on les prépare pas. Je pense que ça ne se prépare. Peut-être qu'il y en a qui font autrement, mais c'est des choses qu'on ne prépare pas. On est dans l'instinct,
le feeling du manager.
On est dans le feeling. On est dans
Que toi-même t'es un peu détruit. Détruit, le mot est un peu fort, mais t'es touché émotionnellement.
Oui, bien sûr.
La scène que raconte Christophe.
Oui, mais on en parle là aujourd'hui. Et par exemple avec Thibaut, ça date quand même. Ça fait bon nombre d'années. On n'en a jamais reparlé.
Mais vous savez.
Mais lui et moi, on sait. Ça fait partie de
votre histoire, en fait.
De notre histoire. On n'a pas besoin de se la rappeler. On sait qu'elle est là. Elle sera là pour toujours. On peut être des semaines, des mois. On peut peut-être même être plusieurs. Alors, c'est pas encore le cas, mais on pourrait peut-être être très longtemps sans se parler. Ça restera. Ça restera entre nous. Quand tu accompagnes un coureur quand il est dans la détresse, ou quand tu accompagnes un sportif quand il est dans la détresse, que tu es avec lui, tu le vis avec lui, tu lui donnes quelque chose, tu lui apportes quelque chose. Ça use, ça fatigue, ça ruine le mental, mais tu l'as accompagné dans ce moment. C'est un moment de vérité, c'est un moment d'homme à homme. C'est presque plus important et plus grand quand tu vas chercher une victoire. Parce que, en fait, d'aller chercher une victoire, quand tout se déroule normalement, que le placement est bon, on a l'action et la réaction au bon moment, j'ai envie de dire, c'est facile. C'est facile. Le plus dur, c'est quand tu es dans la détresse, quand tu te retrouves face à tes mecs le matin au briefing, que le jour d'avant, tu avais tous tes coureurs devant le camion balai, et que s'il n'y avait pas eu des repêchages, tu en avais la moitié qui aurait été éliminée. C'est là où il faut que tu trouves les mots, que tu trouves le ressort et la clé qui va te permettre de repartir le plus neuf possible face à l'étape qui t'attend.
Marco, t'as un stylo, je te donne le numéro d'Arina Zabalenka, tu vas lui remonter le moral. Parce que là, tu nous as transporté tout de suite. Ah bah Fred a ramené, tiens. On referme la porte du vestiaire. C'était fascinant de vous écouter, et c'est vrai qu'assez rapidement, on a développé sur comment on gère la détresse, et c'est vrai que c'est ce qui explique les grands moments du sport aussi, les bons et les moins bons, parce qu'il n'y a pas que dans la victoire que le sport est intéressant et qu'il mérite de se raconter, évidemment.